Et c'est l'heure du journal avec vous, Olivia Cohen. Bonjour Olivia.
Bonjour Hervé, bonjour à toutes et à tous. Pas de trêve des confiseurs sur les rails, 59% des TGV intercités annulés aujourd'hui. À la veille du réveillon de Noël, les gares toujours remplies de voyageurs incertains, ils ont un avis nuancé sur la grève causée par la réforme des retraites. Vous l'entendrez, nous irons en gare Montparnasse à Paris. Emmanuel Macron n'a pourtant pas ménagé sa peine ce week-end. Pour tenter de calmer les esprits, il renonce à toucher sa retraite de président. Une annonce surtout symbolique et incitative, explication à suivre. Pour Noël, si vous voulez envoyer des cartes de vœux, renseignez-vous sur leur origine. On vous raconte une histoire incroyable, ça s'est passé en Grande-Bretagne. Et puis Bethléem se prépare à célébrer sa grand-messe en l'église de la Nativité en Cisjordanie. Les Gazaouis pourront-ils y participer? Rien de moins sûr. Et la question du jour, Hervé?
Les incendies en Australie qui ravagent notamment l'est du pays, Sydney et ses habitants suffoquent. Nous en parlerons avec le chercheur David Camerou.
Malgré les appels du pied d'Emmanuel Macron, il est bon de savoir faire trêve, a-t-il lancé aux opposants à la réforme des retraites ce week-end. Eh bien la grève se poursuit, 19e jour de mobilisation, c'est toujours très difficile de voyager en train ce matin, avec seulement 2 TGV sur 5, 2 TER sur 5, 1 intercité sur 4 et 1 transilien sur 5. Une question sur toutes les lèvres, dans les gares, mon train est-il maintenu? Diane Berger a tendu son micro aux voyageurs, c'est en gare Montparnasse à Paris.
Dans le hall de la gare Montparnasse, une foule de mines résignées, les voyageurs patientent, comme Gabrielle, une infirmière de 26 ans, venue de Belgique, son train Paris-Angoulême a été supprimé.
J'ai dû payer 111 euros pour arriver à Bordeaux, ma sœur doit venir me chercher, payer l'essence. Enfin, donc je comprends totalement le mouvement de la SNCF et des autres professionnels en général, mais moi ça fait un an que j'ai pas vu ma famille, donc là je descends exprès en France pour voir tout le monde et ben, je suis embêtée et financièrement c'est pas facile pour moi non plus.
Assise sur les marches, Isabelle lit en attendant son train. Pour des raisons familiales, elle doit multiplier les trajets entre Paris et la Savoie cet hiver et elle ne sait que penser du mouvement.
On aurait aimé qu'il y ait une trêve de Noël parce que oui, il y a quand même beaucoup d'usagers qui sont en difficulté, mais c'est un combat, donc quelque part s'ils veulent mettre la pression, ils ont raison de le faire durer pendant les vacances, même si effectivement en tant que chercheuse de voyage, c'est compliqué et je trouve ça très pénible et très agaçant. Mais moi, je suis enseignante et je suis aussi concernée, donc voilà.
Le train de François a été annulé, mais lui et son fils ont pu obtenir des places à bord du suivant 2 heures plus tard. Calme, il comprend que les grévistes continuent.
La grève est un droit, donc je vois pas pourquoi ils l'exerceraient pas. Je trouve que cette façon de faire culpabiliser les gens sur leurs droits... pas un bon signe, d'une manière générale, dans notre société.
Alors, une trêve à Noël, il ne la souhaite pas particulièrement, quand bien même il n'est pas encore sûr que son train retour sera maintenu.
Et si le soutien au mouvement s'effrite parmi la population, 51% selon un sondage IFOP pour le journal du dimanche, c'est 3 points de moins que la semaine dernière, et bien les cheminots peuvent compter sur le soutien d'une quarantaine de personnalités, des écrivains, des comédiens, des universitaires, notamment Annie Ernaux, Édouard Louis ou encore Jean-Marie Bigard, dans un texte publié sur Mediapart. Ces personnalités appellent à soutenir financièrement les grévistes. Ce matin, ce sont les syndicats des raffineries qui haussent le ton. Celle de l'Avera près de Martigues, c'est dans les Bouches-du-Rhône, est à l'arrêt total. Des AG sont prévus aujourd'hui. Les tentatives d'Emmanuel Macron de ce week-end pour calmer le jeu n'ont donc pas fonctionné. Et pourtant, le président espérait certainement faire mouche en annonçant qu'il renonçait à sa retraite de chef d'État, un peu plus de 6000 euros bruts par mois. Avec cette annonce très symbolique, Emmanuel Macron entend remodeler son image et surtout inviter d'autres élus, les sénateurs par exemple, à prendre exemple sur lui. C'est en tout cas l'analyse d'Arnaud Mercier, il est professeur de communication à l'Institut français de presse de l'Université Paris 2 Assas.
Un des coups concerne l'image qu'il donne et qu'il projette de lui-même depuis l'affaire des Gilets jaunes et même avant. L'idée du président des riches, de celui qui justement favorise ceux qui sont déjà favorisés, etc. Donc il souhaite montrer que lui a bien pris conscience du fait que les présidents de la République ont un statut très particulier une fois qu'ils ne sont plus présidents et que, du coup, il veut montrer qu'il est en cohérence avec sa politique. Quand il dit qu'il veut mettre tout le monde sur un pied d'égalité, il commence par lui-même. Et le deuxième coup, c'est à destination du Sénat, puisqu'il avait commencé très vite par dire « Et bien sûr, les élus s'appliqueront à eux-mêmes ces nouvelles règles, etc. » Et on voit bien comment les sénateurs sont vent debout contre cette idée qu'il faudrait réformer de façon forte leur système de retraite qui est, faut bien le dire, hors norme par rapport à ce qui se fait, justement. Et je pense que c'est une façon aussi, du point de vue de l'opinion, de mettre encore un peu plus la pression sur les sénateurs, sur le mode, écoutez, maintenant que le président de la République l'a fait, vous devriez le faire aussi.
Arnaud Mercier, professeur de communication à l'IFP, Institut français de presse à l'Université Paris 2, Assas. Les tentatives donc d'apaiser les esprits ne prennent pas. L'année dernière, justement, pour calmer la crise des gilets jaunes, l'une des réponses du gouvernement, c'était la prime Macron, une prime défiscalisée à hauteur de 1 000 euros maximum. Près de 5 millions de salariés en avaient bénéficié. Cette prime est reconduite cette année, mais les nouvelles conditions d'application sont un véritable casse-tête, Laurent Kramer.
Dans ces quatre salons de coiffure strasbourgeois, Benjamin Stalter, grâce à l'exonération de charges prévue par la prime Macron, avait multiplié l'an dernier par 3 la prime qu'il verse habituellement à Noël à ses employés. Le nouveau dispositif retenu cette année par le gouvernement est beaucoup trop contraignant, regrette le commerçant.
Moi je suis le premier déçu parce que l'année dernière c'était une bonne nouvelle. Mes collaborateurs sont les seconds déçus aussi. On va donner nettement moins, peut-être même pas, parce que comme on n'a pas d'accord d'intéressement dans nos entreprises, comme 90% des artisans, on ne pourra pas profiter de la prime Macron.
Imposer aux petites entreprises et commerçants la signature d'un accord d'entreprise sur l'intéressement est absurde et injuste au regard de leur mode de fonctionnement. La déception des salariés sera énorme cette année, estime Laurent Rigaud, artisan boucher du Nord, près de Tourcoing.
Ce qui fonctionne, ne touchez pas. Et celle-là, il ne fallait pas la toucher. D'avoir un petit peu plus, et bien là, il y avait une reconnaissance. Là, on disait que c'était parce qu'il y avait une action de l'État qui faisait qu'on pouvait le faire. Et bien là, on dira l'inverse. On dira l'action de l'État fait que vous l'aurez pu. C'est pas nous, c'est l'action de l'État qui dit que vous l'aurez pu. Et je comprends pas qu'ils, ça, ils comprennent pas. Tout de suite, remettre une règle pour les petites entreprises. Parce que les grosses entreprises, eux, ils vont pouvoir le faire sans aucun problème.
Selon le syndicat des indépendants, 97% des petites entreprises ne verseront pas la prime Macron en 2020.
Un reportage signé Laurent Kramer. La tempête Fabien a balayé le sud-ouest et la Corse en France hier. Et près de 20 000 foyers étaient toujours dans le noir hier soir, principalement en Nouvelle-Aquitaine. Les liaisons aériennes et maritimes interrompues entre la Corse et le continent et l'aéroport d'Ajaccio va rester fermé. Aujourd'hui, la piste est inondée. Météo détaillé à la fin de ce journal. En Irak, les manifestants pas décidés à faire la trêve de Noël. Ils étaient dans la rue hier, décidés à se faire entendre. La population ne veut pas du ministre de l'enseignement supérieur comme premier ministre. Elle veut mettre à bas le gouvernement actuel. Depuis début octobre, en marge de ces manifestations, 460 morts signalés, également 25 000 blessés. En Afghanistan, les talibans revendiquent ce matin l'attaque qui a coûté la vie à un militaire américain. Dans un communiqué, le porte-parole des talibans parle d'un véhicule américain ciblé dans le district Chardara de Kunduz la nuit dernière. Une attaque au lendemain de la publication des résultats d'élections présidentielles afghanes, c'était en septembre. Majorité absolue, plus de 50% des voix pour Ashraf Ghani, le président sortant. Son principal adversaire, Abdullah conteste. La commission électorale s'est malheureusement rangée du côté des fraudeurs. Fin de citation. Et puis les Galapagos, cet archipel du Pacifique au large de l'Équateur en Amérique latine, menacé par une nappe de 2300 litres de diesel, une barge a chaviré et coulé dans l'un des ports de l'archipel, classé au patrimoine naturel de l'humanité. Des barrières de contention et des chiffons absorbants étaient déployés pour réduire le risque environnemental.
Il est 7h08, la suite de votre journal, Olivia Cohen, avec des cartes de Noël fabriquées par des prisonniers chinois.
Et oui, c'est ce qui ressort de cette histoire. Le géant britannique des supermarchés Tesco vient d'annoncer qu'il suspend sa production de cartes de vœux dans une usine basée à Shanghai, en Chine. Et oui, un message de la main d'un homme qui se présente comme un prisonnier étranger a été retrouvé sur l'une de ses cartes, illustrée d'un chaton portant un chapeau de Noël, Laura Elgaïm.
Le message a été découvert par une petite fille de 6 ans. Selon le Sunday Times, la fillette s'apprêtait à écrire ses vœux dans une carte de Noël achetée par son père au supermarché Tesco à Tooting, dans la banlieue de Londres. En ouvrant la carte, elle découvre avec stupéfaction qu'il y a déjà un mot qui ressemble à un appel au secours. « Nous sommes des prisonniers étrangers dans la prison Xingpu à Shanghai », peut-elle lire. S'il vous plaît, aidez-nous et contactez Peter Humphrey. Le papa de la jeune fille décide de faire des recherches et de contacter l'homme mentionné. Il s'agit là d'un ancien journaliste qui, en 2014, a passé 2 ans dans cette même prison. C'est d'ailleurs Peter Humphrey à l'origine de l'article paru hier dans le Sunday Times. Selon lui, le message proviendrait d'un de ses anciens codétenus, encore en prison et travaillant de force. La chaîne de supermarchés Tesco est aujourd'hui pointée du doigt. Comment savoir si elle effectue les contrôles nécessaires ? Elle a en tout cas réagi, assurant qu'elle suspendait toute production avec l'usine et qu'une enquête était en cours.
Et cette découverte n'est pas la première du genre. Selon la télévision britannique Sky News, en 2017, un message en caractère chinois provenant d'une prison du sud de la Chine avait été retrouvé. C'était dans une boîte de cartes de Noël de la chaîne de supermarchés Sainsbury's. C'est la deuxième plus grande chaîne de supermarchés au Royaume-Uni. Ça ne vous a pas échappé, c'est donc Noël demain soir, célébration de la naissance du Christ. Et les chrétiens de Gaza pourront-ils assister à la messe de Noël à Bethléem, en Cisjordanie ou à Nazareth en Israël? Rien de moins sûr, car Israël se montre rétive à délivrer des permis de circuler. L'administration militaire invoque des raisons sécuritaires, mais le mobile serait plutôt d'ordre politique. Notre correspondant en Israël et Palestine, Frédéric Mettezo, s'est rendu à Gaza, où les chrétiens prient pour que la situation se débloque.
Hier, comme tous les dimanches, le père Gabriel a célébré la messe dans la seule église catholique de Gaza, dans l'édifice aux murs blancs et jaunes, avec inscription en arabe et images saintes colorées. Il a formulé une prière inhabituelle.
Je désirais que l'église catholique à Gaza soit vide les nuits de Noël, parce que ça veut dire que les chrétiens d'ici ont obtenu le permis pour aller à Bethléem.
Pour l'instant, Israël n'a délivré qu'une centaine de permis de sortie pour le père Ibrahim Chomali, chancelier du patriarcat latin à Jérusalem. C'est à cause de la campagne électorale israélienne.
Il n'y a pas de problème de sécurité. Les Palestiniens chrétiens résistent dans leur manière avec des voies pacifiques. La question n'est pas seulement religieuse, c'est question purement électorale politique. Les fanatiques, ils veulent faire plus fanatiques pour dire à leurs électeurs que moi je suis fort contre les Palestiniens.
Et pour le curé de Gaza, ce sont les familles qui vont en souffrir.
Les familles palestiniennes, elles sont vraiment divisées. Elles sont présentes dans tous les territoires. Gaza, Cisjordanie, Israël même. On parle de frères, de sœurs, de fils. Alors Noël, c'est une occasion où tout le monde espère de voir leur famille.
Gaza, 2 millions d'habitants, ne compte qu'un millier de chrétiens. L'année dernière, seuls 700 avaient pu se rendre en Israël et en Cisjordanie.
Un reportage signé Frédéric Mettezo. Et puis quelques mots de météo. C'est encore agité par endroits. 4 départements restent en vigilance orange ce matin. Le Finistère, l'Ille-et-Vilaine et la Charente-Maritime en alerte inondation. Il y avait aussi des risques d'avalanche dans les Alpes. Côté thermomètre, il fait plutôt doux. 17 à Nice, 14 à Toulon et Montpellier, 11 à Paris et Cherbourg. Vous écoutez France Culture, le prochain journal, c'est dans une demi-heure si vous le voulez bien, Hervé.
Ah ben je veux bien, merci Olivia Cohen.